France Musique. France Musique, les grands entretiens. Thomas Verkracht.
Je m'appelle Thomas Hades. Je suis né à Londres le 1er mars 1971. Je suis compositeur, pianiste, chef d'orchestre. J'ai 50 ans.
D'opéra Thomas Hades, vous en avez écrit trois. Le premier, c'était en 1995, Powder Face. Dans quel état d'esprit, un jeune compositeur de 25 ans, s'attelle à un opéra?
J'ai voulu épater, étonner, et de faire quelque chose. Je savais que no one was expecting.
Personne s'y attendra.
Oui, oui. C'est, pour moi, c'était le plus important de faire quelque chose qui n'était pas du code.
C'est à cause du sujet, ça?
Oui, c'est pour ça qu'on a trouvé le sujet. C'était mon librettiste, Philip Pencher, qui a... J'ai dit, je crois que je pourrais faire quelque chose qui s'agit d'une personne qui, au commencement, elle a tout. Elle a le monde, elle a beaucoup, et à la fin, elle n'a rien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que ça serait bon pour ma musique. J'ai voulu écrire quelque chose qui serait émouvant et qui serait... séduisant et indéniable et irrésistible.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage de la duchesse Margaret d'Argyll, qui est le personnage principal de Powder Face, qui donc effectivement au début de l'opéra a tout et est très célèbre et à la fin qui n'est plus rien et qui est rejetée par tous?
J'ai voulu quelque chose que une héroïque, anti-héros.
Anti-héroïne,
mais c'est très important pour moi qu'elle ne serait pas très sympathique. Je voulais dire, même les personnages qui ne sont pas sympathiques peuvent être tragiques. Il faut pas être sympathique pour être émouvant. Ça, pour moi, it's more powerful. Comme the Rakewell in The Rake's Progress. Parce qu'il est pas bon, il fait des choses affreuses, mais c'est pour ça que c'est plus émouvant quand il devient fou.
Est-ce que dans cette œuvre, vous aviez aussi la volonté de choquer un petit peu le public?
Bien sûr, oui. Non, mais moi, je suis innocent. C'est du tout Philip Pencher.
Je dis ça parce que dans cet opéra, il est aussi célèbre puisqu'il y a notamment dedans des scènes de sexe plutôt explicites. C'était une volonté vraiment à l'origine d'intégrer ces scènes très crues dans l'opéra?
Non, en effet, vous pouvez pas me croire, mais pour moi, c'était une chose... symbolique. C'est-à-dire que elle était silencée par ses désirs. Ses désirs la faisaient taire. Et c'est fait assez littéralement dans cette scène.
Oui. C'est une œuvre qui aussi, par sa formation, une quinzaine de musiciens avec notamment un accordéon et certains passages qui parfois sont de véritables chansons, amènent presque vraiment l'opéra dans le registre de la comédie musicale. Ça allait de soi aussi avec ce sujet?
Oui, j'ai voulu faire quelque chose qui est un peu cabaret en caractère, et j'adorais cette sorte de sonorité crue, un peu crue, et coupant le bandoneon sound I liked. Aussi des sonorités qui vont du radio, des choses comme ça. J'ai voulu une mise en scène qui est complètement réaliste, mais toutes les choses, c'est hanté, comme quelque chose comme une chambre dans un hôtel qui est clinique, mais ça, c'est très hanté pour moi. C'est pour ça, je voulais la musique serait comme ça.
Comment ça, hanté?
Hanté, parce que quand on est dans un hôtel, il y a de milliards de gens avant vous qui sont là, mais ils ont l'impression que c'est seulement...
Que vous êtes le premier.
Oui, vous êtes le premier, mais vous n'êtes pas le premier.
Listen to me, I'm like a boatload.
Certainly, madam.
and a bottle of claret and some sandwiches. Can you do that? I want some beef.
Now, madam.
Bring me some wine. Bring me meat. Bring me wine. Can you have?
C'est un opéra dans lequel on entend aussi des fausses musiques un petit peu légères, entre guillemets. C'était important pour vous d'avoir ce type de musique plus légère et de peut-être de dire que c'est peut-être pas aussi banal et oui. Léger que ça.
Oui, c'est ça, parce que ces sonorités sont les vérités de ces époques, les époques des années 20, des années 30 et des années 50, ça change, des années 70, une sorte de psychedelic rock. C'est comme les vêtements, les fourrures, le caractère, son parfum qu'elle apporte, la joie. Joy by Patou. Les sonorités qui nous entourent peuvent exprimer la vérité de nos vies d'une façon opératique.
C'est aussi un opéra dans lequel il y a de vraies scènes drôles et un caractère assez sarcastique par moments. Est-ce que vous écrivez une musique sarcastique, Thomas Hades?
Ouais, je dirais oui, bah peut-être oui. Parce que je suis loin d'être le premier qui est sarcastique. Schubert, Beethoven, Mahler, Janáček, Stravinsky, Prokofiev, sarcastique.
Tous enfin. Les compositeurs que vous aimez écrivent de la musique sarcastique.
Mais c'est dans toute la musique, c'est là. Mais il faut avoir le goût pour ça.
Et justement, c'est aussi amusant puisque Powder of Face est aussi une œuvre qu'on pourrait qualifier d'extrême hein, par les sentiments qu'elle dégage, par les scènes qu'elle représente et puis par la musique qu'elle fait entendre. Est-ce qu'on peut dire que le mot extrême, ça pourrait être aussi peut-être une bonne définition de votre musique?
J'espère, mais la vérité est toujours un peu extrême. Mais c'est pour. J'ai une sensation de dire à des gens écoutez. Écoute-moi. C'est toujours quelque chose d'extrême de dire écoutez-moi.
Je pense aussi au fait que vous écrivez des œuvres virtuoses. À chaque fois, c'est pour rappeler l'auditeur qu'il y a ce côté très extrême et de sonorité aussi parfois très violente, des aigus très forts, des graves très forts.
Je veux qu'on ne peut pas échapper. Si je ne peux pas séduire, je vais foncer.
Alors Thomas Hades, si l'on revient à la période de Powder of Face, à la fin des années 90, vous écrivez ce qui reste à ce jour peut-être votre tube, hein, Asila pour grand orchestre. Parlez-nous un petit peu de la jeunesse de ce projet, de cette vraie fausse symphonie en quatre mouvements.
C'était une commande par Simon Rattle. J'avais ces images, je voulais les recréer et en sonorité orchestrale.
Asila, ça veut dire asile, en même temps havre de paix et asile de fous.
Les deux, c'est de sang, là. L'endroit de sécurité où on peut s'échapper en exil ou quoi, et aussi bien sûr pour les fous. Le premier mouvement, je me rappelle, il s'agissait de réfugiés en grand nombre. Et il y a une sorte de pastorale en ce mouvement qui est basé sur Couperin. Deuxième mouvement, j'avais d'origine une idée qu'il s'agissait du Vatican. Mais I dropped these titles.
Vous n'avez pas gardé les titres.
C'est ça.
Le seul mouvement pour lequel il y a un titre, c'est le troisième. C'est un peu le moment de bravoure de la symphonie qui est sous-titré Extasio et qui fait aussi penser à la musique techno.
Oui. J'entendais beaucoup de techno pour écrire ce mouvement. Je voudrais faire une scène de danse, de nightclub, et créer toutes les impressions. Parce que ça, pour moi, c'est à la fois un lieu d'échappement et un lieu de fou. Peut-être les gens qui perdent la réalité ensemble. Mais je voudrais faire ça comme une sorte de scène opératique.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Thomas Hadès.
On a parlé tout à l'heure de votre premier opéra, Powder of Face, en 1995, et une dizaine d'années plus tard, en 2004, vous créez un autre opéra d'après La Tempête de Shakespeare, dont on parlait déjà tout à l'heure. Votre découverte de la pièce La Tempête, ça remonte à votre enfance.
Oui, oui, on lisait à l'autre fois toutes les pièces de Shakespeare, celui-là surtout. C'était extraordinaire pour moi qu'il n'y avait pas vraiment d'opéra de La Tempête avant ça. Ben, j'avais l'impression que Beethoven a regardé, il a pensé de ça, Ligeti aussi, peut-être des autres, mais il y a des difficultés avec le texte parce qu'il y a une grande histoire avant scène, tout ça. Mais j'avais trouvé là, pour moi, une écrivaine parfaite de le faire, Meredith Oakes.
Qui a réadapté le...
Oui, a adapté le texte de Shakespeare, pour ainsi dire, traduit en une sorte d'anglais qui est archaïstique. It has the flavor of Shakespeare.
Le parfum.
Le parfum de Shakespeare.
Et est-ce qu'il y avait une ligne directe entre Powder of Face et La Tempête, ou bien c'était deux univers complètement différents?
Deux univers complètement différents, parce que je crois qu'un opéra doit être un univers complet, chaque fois.
Powder of Face, c'était un opéra de chambre, une quinzaine de musiciens et quatre chanteurs uniquement. La Tempête, c'est vraiment le grand modèle, c'est un peu l'opéra seria. Mm. Il y a un orchestre, ça dure deux heures, avec plein de solistes et un chœur. Est-ce que ça a été peut-être plus difficile aussi de gérer ça, et puis le poids, l'héritage du passé qui arrive d'un seul coup?
Oui, oui. Et il me fallait créer un langage qui était à la fois nouveau et classique. C'est vraiment, j'avais un travail très dur pour ça, pour créer ça. Et ça, c'est l'impression d'être un opéra de l'époque de Berlioz. J'ai voulu cette impression, mais à la fois, ça serait complètement de l'avenir, comme une sorte de pop classique. C'est une chose peut-être impossible, mais j'ai voulu le faire. Parce que je crois, peut-être pour arriver à un point comme Purcell, comme kind of pre-opera.
Et qu'est-ce que vous auriez comme grand souvenir de la création de La Tempête?
J'étais tellement en retard. Deux mois, un mois avant le premier, toujours je faisais l'instrumentation et aussi je dirigeais. C'est vraiment quelque chose d'épuisant. Mais avec l'aide de Tom Cairns, Opera House, nous l'avons achevé. Mais, ouf, parce que c'était faire toutes ces formes, push me to extremes, extrêmes, nerveuses. Mais j'ai voulu enfin que ça serait une sorte de fièvre qu'on allait passer par l'autre côté. Et la fin de l'opéra, on est tout est calme, on est la nature, la mer, les sables, le vent. Et tout c'est bien, la belle terre. Oui.
C'est le retour des éléments naturels.
Oui, c'est ça. Mais après avoir survécu.
Survécu à tout ça.
Oui, tout ça. Une fièvre.
En tout cas, votre troisième opéra qui lui date de 2016, c'était 15 ans plus tard. Celui-là, vous l'aviez peut-être mûri depuis longtemps sur l'Ange Exterminateur de Buñuel, puisque votre mère est une historienne de l'art, spécialiste du surréalisme. Est-ce que ça venait de là, cet intérêt pour ce film de Buñuel?
Oui, oui, il y avait une saison de Buñuel, de film de Buñuel, encore quand j'avais 14 ans, je dirais, sur le BBC. Et on a regardé la plupart, le charme discret de la bourgeoisie, le fantôme de la liberté, qui est vraiment mon préféré, mais Exterminating Angel, encore, cette idée m'est venue dans la tête et c'était impossible de remove.
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu ce film à la télévision?
Oui.
Dans quel état d'esprit ça vous a plongé?
Ah, j'adorais parce que l'idée était tellement drôle.
C'est une quinzaine de personnes, quinzaine de convives à un grand dîner qui sont bloqués dans le salon et qui ne peuvent pas sortir de la pièce.
Ils sont bloqués, mais il n'y a pas de porte. C'est bloqué par quelque chose d'invisible.
Psychologiquement.
On ne sait pas. Ils s'élancent vers la porte, mais c'est ouvert, mais ils ne peuvent pas. Et c'est hystérique. C'est très, très drôle comme idée. Et ça contient tout. Ça contient beaucoup d'implications. Mais le ton du film est très sombre. Très espagnol.
C'est ce que j'allais dire, que oui. L'histoire du film et puis de votre opéra, c'est loin d'être uniquement une comédie, c'est pas très comique pourtant.
Non, c'est pas comique du tout, parce que le sujet, c'est tragique. Mais c'est fataliste, c'est très espagnol, je crois. C'est une sorte de fatalisme.
Todos, señores. Peor que el pánico no hay nada. Una situación como esta no puede durar indefinidamente. No estamos encantados, amigos. Este no es el castillo de un brujo. Mira allí. No, en la cumbre. ¿Lo ves?
El Papa.
Sí, él es. Qué lleno de majestad, qué solemne. Se diría un guerrero.
Yo soy sûr que pour Buñuel, ce qui est drôle, c'est la situation. Mais elle dit, oh, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la rue à 7 heures du matin? You know, c'est une excuse pour ne pas sortir. C'est hilarious.
L'Ange Exterminateur, c'est aussi un film qui apparaît comme une gageure à adapter à l'opéra. Il y a une quinzaine de personnages quasi totalement tout le temps en scène. Est-ce que ça a été plus complexe pour vous à écrire que La Tempête, peut-être?
Oui, c'était un monstre. mais différent parce que j'avais plus des outils.
Plus d'outils.
Oui. Et aussi, j'avais de l'expérience de ce que c'était d'écrire un grand opéra. Alors, je savais qu'il y aurait des journées, des semaines où je me dirais, c'est impossible, je vais jamais achever ça. Je l'ai fait une fois, peut-être que je peux faire deux fois.
Est-ce que justement, quand on commence un troisième ouvrage lyrique comme ça, on l'aborde avec un peu plus de confiance en soi?
Aussi, on a oublié l'expérience précédente. Je crois que c'est comme la naissance d'un enfant, on oublie les problèmes, the pain. Mais aussi, je me suis dit que ça serait un opéra. J'étais persuadé que j'écrivais une sorte de Fledermaus surréaliste de horreur, mais Fledermaus, cette sorte d'opéra, vraiment. Mais apparemment, évidemment, c'était pas possible que ça serait un opéra. C'est parce que le sujet est tellement noir.
Donc
tellement,
une opérette. Oui. Vous vouliez écrire,
vouliez écrire
une opérette sur ce film-là.
Oui, ils avaient l'idée que ça serait une opérette. Oui.
Un petit peu comme Powder Face, quelque part.
Oui, oui, Powder Face, mais comme Fledermaus, la chauve-souris. On peut entendre cette ambition dans la partition, parfois. Mais le poids du sujet, surtout dans le troisième acte, c'est comme quelque chose qui le tire.
Le tire.
Tire, oui.
Thank you.
si je repense à une pièce qu'on évoquait tout à l'heure, In Seven Days pour piano et orchestre, c'est une pièce que vous dirigez et dont vous avez une fois joué même la partie de piano seul. Est-ce que dans cette œuvre-là, vous avez un poste favori ?
Une fois seulement. Diriger, c'est beaucoup plus facile. La partie de piano, c'est pour un grand pianiste.
Et alors, non seulement In Seven Days, hein, qui décrivait les sept jours de la création, mais aussi en pensant à Tevot, une grande œuvre pour orchestre, pour l'Orchestre Philharmonique de Berlin, inspirée par un mot hébreu présent dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a un goût de l'immense et du sacré dans votre musique, Thomas Hades ?
Oui, c'est une chose, une côté humaine très important pour moi. Mais s'agit un peu de qui sommes-nous? Sommes-nous une partie de la nature? Quelque chose d'autre? Avons-nous quelque chose de spécial? Pour moi, spoiler alert, non. Mais, mais c'est ça, c'est pour comprendre ce qu'on est comme. Et encore, on a parlé de linceul. Là, on pourrait nommer le sacré.
Et est-ce qu'il y a quelque chose aussi de vos origines juives séfarades là-dedans, dans ce goût du sacré ?
Peut-être en une sorte de... Je trouve peut-être dans la pensée juive, il s'agit plus d'une sorte de science, de nature, du monde, de l'humanité, de notre situation. Il n'y a pas de redemption.
De rédemption.
Oui, ça, c'est pas, ça fait pas partie. C'est quelque chose de plus éternel. Nous sommes dans la chambre, nous sommes sur la terre, nous sommes ici.
Pas d'échappatoire.
Oui, j'adore ça. C'est un désert.
Justement, à 50 ans maintenant, Thomas Hades, quel regard vous jetez sur votre production et sur votre carrière ?
Je me sens un peu libéré de regarder ma carrière comme ça. Je vis de jour en jour, de semaine en semaine, parce que quand j'avais 40 ans, je pourrais penser de tout ça, qu'est-ce que je fais, que je vais faire. Maintenant, je survis.
Et si pour résumer, vous deviez nous donner trois œuvres de vous dont vous êtes peut-être le plus heureux, le plus fier,
oh.
Qu'est-ce que ça pourrait être, vos trois enfants préférés, en quelque sorte ?
Mon nouveau clarinette quintet. Alchimia, maybe the Tempest, the Violin Concerto.
Donc le quintet pour clarinette, Alchimia,
oui, oui.
The Tempest, et puis le concerto pour violon.
Peut-être, mais ne dis rien aux autres enfants.
Des harmonies dont s'extrait une insondable poésie méditative qui déchire le cœur. Ici, les derniers instants de Alchimia, le tout récent quintet avec clarinette de Thomas Hades, et qui, selon ses propres dires, est même un de ses enfants musicaux préférés. On entend l'enregistrement de la création, c'était le 30 septembre dernier à la King's Place de Londres, par les dédicataires, le clarinettiste Mark Simpson et le quatuor Diotima. C'est ainsi que se referment nos grands entretiens avec le compositeur, pianiste et chef d'orchestre Thomas Hades. Prise de son Emmanuel Armin, mixage Valérie Lavalard, attaché de production Marie Ferdinand, une réalisation de Gilles Blanchard.
À réécouter sur francemusique.fr.